Bonne journée sur RFI, dans l'immédiat, le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à New York. Amazon et les syndicats, le géant américain serait-il sur le point de voir les salariés d'un deuxième entrepôt new-yorkais voter en faveur d'un syndicat ? Initiative isolée ou bien mouvement de fond dans l'Amérique de Joe Biden, on parle syndicalisation, vous l'aurez compris, avec notre invité du jour. Avec vous, Serge Massot, dans le journal de la première, retour sur les pluies diluviennes qui ont douché la Guadeloupe ce week-end.
Oui, un mort, une personne disparue et de nombreux dégâts matériels. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a plu autant que lors d'un épisode cyclonique.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Serge. Et avant cela, du Chili à l'Uruguay en passant par la Colombie ou le Honduras, revenons sur les mobilisations du 1er mai hier en Amérique latine.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
Ambiance musicale, vous l'entendez, sous le soleil de Caracas au Venezuela. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour
le
à tous.
Le Venezuela où ce sont notamment les personnels hospitaliers qui sont descendus dans les rues hier.
Oui, c'était pour réclamer des salaires justes et dignes, comme l'écrit aujourd'hui le journal El Nacional. Dans le centre-ville de la capitale Caracas, les chavistes se sont également donné rendez-vous, mais c'était pour célébrer le travail du gouvernement et de fustiger une fois encore l'oppression de l'empire nord-américain. Selon le président Nicolas Maduro, les sanctions américaines pèsent effectivement sur la vie quotidienne des Vénézuéliens. Il a d'ailleurs annoncé hier le paiement d'une prime, une prime pour les retraités à hauteur de 10 000 bolivars, soit l'équivalent d'environ 2 200 dollars. C'est à l'une du journal Dos Mil Uno.
En Colombie aussi, on a manifesté hier avec des drapeaux à Bogota.
Cada primero de mayo, los trabajadores salimos a reivindicar la lucha por nuestros derechos, nuestros derechos laborales.
Chaque 1er mai, nous, les travailleurs, sortons pour revendiquer la lutte pour nos droits au travail, nos droits à la retraite, explique ce manifestant. Le travail, dit-il, est un droit, le droit de travailler dans des conditions décentes. Ambiance nettement plus tendue au Chili. Le Chili, où trois personnes ont été blessées par balles lors de violents affrontements à Rima Santiago en marge de la manifestation syndicale.
Oui, des commerçants auraient ouvert le feu après de violents affrontements avec les manifestants, touchant trois personnes, dont une journaliste, selon le journal La Tercera. Son pronostic vital est engagé après avoir reçu une balle dans la tête. Les autorités ont ouvert une enquête. Le président de gauche, Gabriel Boric, a vivement condamné ces violences. Nous ne pouvons pas permettre à les bandes criminelles de prendre le contrôle des rues de notre pays, a-t-il déclaré, des propos repris par La Tercera.
Inédit, au Honduras, la présidente Xiomara Castro, au pouvoir depuis bientôt 100 jours, a elle participé à une marche de plusieurs milliers de travailleurs. C'était à San Pedro Sula, à 180 km au nord de la capitale. À 5 mois de la présidentielle au Brésil, ce 1er mai a été l'occasion d'un affrontement à distance entre le favori du scrutin, l'ancien syndicaliste Lula, qui mobilisait ses troupes devant un stade de foot de Sao Paulo, et le sortant, son rival, Jair Bolsonaro. Martin Bernard.
C'est au son de Lula, guerrier du peuple brésilien, que l'ancien président a été accueilli par des milliers de militants chauffés à blanc après 4 heures de discours de syndicalistes, de chants et de musique populaire. Pour ce 1er mai qui précède les élections d'octobre, tous les syndicats s'étaient rassemblés autour de Lula, même les plus modérés, avec une seule cible, le président sortant, Jair Bolsonaro.
Cet actuel dirigeant que je chamo de fasciste.
Ce dirigeant actuel que je traite de fasciste et de génocidaire n'a jamais reçu les dirigeants syndicaux, alors ce type ne gouverne que pour ses miliciens.
Os milicianos deles.
Lula a mis l'accent sur la vie chère, sur la faim, qui toucherait selon lui 19 millions de Brésiliens, soit près de 10% de la population. Lula affirme vouloir lutter pour un pays civilisé. Mais Jair Bolsonaro n'a pas voulu laisser la gauche occuper tout le terrain en ce 1er mai. Il a convoqué plusieurs manifestations pro-gouvernementales. Il a même fait une brève apparition devant ses militants à Brasilia, alors que certains sondages montrent qu'il n'a plus que 6 points de retard sur Lula. La lutte ne fait que commencer et elle s'annonce très rude. Martin Bernard, São Paulo, RFI.
L'apparition de Jair Bolsonaro à Brasilia, très critiquée ce matin à Rio par la presse.
Oui, selon le journal O Estado, le président d'extrême droite, par sa présence même, a donné une légitimité à la manifestation de Brasilia, dont la cible principale était la Cour suprême. Jair Bolsonaro maintient le conflit avec le pouvoir judiciaire, titre le quotidien. D'après O Estado, la campagne de diffamation contre la Cour suprême a pour objectif le dénigrement général du pouvoir judiciaire, et notamment, Michael, du tribunal supérieur électoral, un tribunal qui validera les résultats de l'élection présidentielle d'octobre prochain, résultat que Bolsonaro pourrait ne pas reconnaître selon O Estado.
Revenons au travail, à proprement parler, direction tout de suite New York.
RFI. The World's Voices.
Après le vote, la semaine dernière, c'est ce lundi que commence le dépouillement des bulletins sur le site LDJ5 d'Amazon de Staten Island à New York. Les quelques 1800 employés de l'entrepôt étaient appelés à se prononcer pour ou contre la mise en place d'un syndicat un mois à peine après le vote positif et inédit de leurs collègues de l'autre côté de la rue, ceux du site JFK8. C'était alors donc une première dans les rangs du géant de la vente en ligne, l'un des plus gros employeurs américains. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Donna Kesselman, professeure à l'Université Paris-Est, Créteil, sociologue du travail et spécialiste des droits sociaux aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Sur le déclin depuis plusieurs décennies, 35% de syndiqués en 1950, 11% aujourd'hui, la syndicalisation retrouverait-elle de la vigueur aux États-Unis? C'est ce que l'on va voir ensemble. Un mot d'abord, Donna Kesselman, d'Amazon à proprement parler. Que représenterait un second vote en faveur d'une syndicalisation pour les salariés d'un entrepôt de Staten Island?
Ce second vote est absolument clé. Pour affirmer cet élan dans certaines entreprises, cet élan de syndicalisation qui a lieu dans certaines entreprises aujourd'hui aux États-Unis, mais il faut absolument que ça prenne, qu'il y ait au moins un deuxième dans l'entreprise Amazon, parce que l'effet contagion et enthousiasme est essentiel pour tenir dans les campagnes de syndicalisation qui sont très ardues aux États-Unis.
Alors justement, on va en reparler et tout de suite d'ailleurs, puisque Amazon, quand les employés du site de JFK8, le 1er avril, ont voté en faveur d'un syndicat, je le répète, c'était une première. Là, Amazon ensuite a dit vouloir tout faire et évaluer les options pour peut-être contrer. En tout cas, est-ce qu'une fois que le vote est terminé, Donna Kesselman, l'entreprise a encore des recours?
Tout à fait. Au contraire, l'entreprise garde toujours le rapport de force favorable de son côté. C'est-à-dire que, premièrement, comme vous venez de dire, l'entreprise fera certainement appel. Elle a déjà évoqué les motifs et ça fera gagner du temps. Mais même si elle perd cet appel, vous savez, la loi oblige l'entreprise seulement de négocier de bonne foi et pas de signer un accord. Même les campagnes qui parviennent à avoir un vote positif, c'est déjà difficile. Il n'y a que 50% de nouveaux accords qui sont signés dans l'année, seulement 30% dans les 3 ans qui suivent. Donc c'est une stratégie d'usure qui affaiblit les syndicats, surtout dans les entreprises où il y a des turnovers massifs comme à Amazon. Et d'ailleurs, ça ne dit rien par rapport à la qualité du contrat signé à la fin. Quel rapport de force dans un seul entrepôt, dans cette énorme multinationale avec plus de 1000 sites aux États-Unis, c'est difficile à dire d'avance.
Mais vous le disiez, avec une crainte de tache d'huile, d'ailleurs Amazon a déployé et dépensé des millions de dollars, notamment avec des entreprises spécialisées qui sont chargées, je ne sais pas comment on dit exactement, mais de lutter contre justement cette propagation syndicale.
Que ce soit à Bessemer dans l'Alabama ou à Staten Island, Amazon a fait appel à ces entreprises, des dévêtements syndicaux qui les ont aidés à organiser cette campagne très rude, c'est-à-dire de mettre en place une propagande, des affiches, des sites de propagande intersyndicale, d'avoir des réunions obligatoires où les travailleurs doivent assister, où sont proférées des menaces à peine voilées, de licenciement, etc., des travailleurs qui voteraient pour les syndicats. Donc, si vous voulez, c'est une tradition aux États-Unis. Amazon s'inscrit dans une tradition dont plus de la moitié des entreprises qui ont des campagnes de syndicalisation font appel à ce type d'entreprise.
C'est la preuve que le processus de syndicalisation, il est encore très compliqué, très ardu aux États-Unis aujourd'hui.
Ah ben oui, ben c'est structurel. Hein. Déjà, premièrement, c'est une procédure à deux étapes. Il faut d'abord gagner le droit de tenir une élection avec la signature de 30% des salariés pour qu'il y ait une élection organisée. Et une fois que l'élection est organisée, l'élection a lieu pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, l'entreprise bénéficie aussi de sa propre liberté d'expression, comme on dit selon la loi. Donc, l'entreprise profite pour introduire les méthodes que je viens d'évoquer et c'est quelque chose donc, de très difficile hein, et dans tous les cas.
Vous avez évoqué, Donna Kesselman, Bessemer dans l'Alabama, donc site Amazon, où là, la création d'un syndicat, en effet, est beaucoup plus compliquée. Un premier vote a échoué, un deuxième s'est passé, s'est déroulé, l'issue est en suspens. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce qu'il y a une disparité finalement géographique entre le Nord et le Sud?
Oh ben c'est certain. Hein. Nous avons là vraiment l'exemple des deux cultures inverses hein, aux États-Unis. New York, c'est l'État juste après Hawaï, hein, le plus syndicalisé aux États-Unis. Et bien sûr, il y a cette problématique du Sud. Hein, c'est difficile dans la culture très conservatrice, avec y compris des lois de syndicalisation encore plus restrictives hein, dans d'autres endroits du pays. En même temps, bon, certains spécialistes ont critiqué les syndicalistes à Amazon pour des raisons tactiques. Ils auraient, par exemple, trop compté sur la campagne de communication électronique plutôt que de faire un travail de fond, d'aller chez les travailleurs dans leur maison, etc. Mais bon, il y avait aussi la pandémie qui a joué. Il n'aurait pas mobilisé assez la communauté noire, les pasteurs, etc., comme on fait dans l'organizing aux États-Unis. Mais encore une fois, l'entreprise joue dans l'antagonisme racial. Bah, je pense qu'il faut le dire que c'est vraiment très difficile dans le Sud. Vous savez, ces dernières années, même les grands syndicats comme UAW n'ont pas réussi à gagner une élection syndicale dans les entreprises telles que Nissan, Boeing et Volkswagen. C'est difficile.
Vous avez évoqué la crise sanitaire. En quoi la pandémie a joué, peut-être, dites-nous, un rôle dans ce, malgré tout, renouveau syndical auquel on assiste aux États-Unis? Il y a Amazon, il y a aussi eu, alors ce n'est pas la même chose, mais on le précise quand même, également des créations de syndicats chez Starbucks, la chaîne de café. En quoi, véritablement, le Covid a joué quelque chose là-dedans?
Ben, le Covid était essentiel, c'est le déclencheur fondamental. C'est que si les revendications sont généralement de longue date, c'était l'élément déclencheur dans cet élan. Donc, premièrement, donc, la dégradation des conditions de travail, souvent en situation d'insuffisance des mesures sanitaires hein, chez les employeurs qui étaient critiquées. Deuxièmement, une poussée inflationniste qui a donné lieu à une demande d'augmentation de salaire parce que en présence de la rupture des chaînes d'approvisionnement et l'existence d'un marché du travail très tendu, c'est-à-dire devant une pénurie de main-d'œuvre. On a aux États-Unis depuis quelques mois un phénomène qu'on appelle la grande démission. C'est-à-dire qu'en fin d'année 2021, plus de 3% par mois de la population active a procédé soit un départ volontaire, soit un changement de poste. C'est vraiment sans précédent. Et donc ça a donné lieu à un marché du travail très tendu qui a favorisé le rapport de force et qui a favorisé donc ce rapport de syndicalisation. Mais si vous le permettez, il y a aussi la conséquence qui a joué sur la conscience des travailleurs. C'est-à-dire que beaucoup de travailleurs ne voulaient pas sacrifier leur santé et leur bien-être pour l'entreprise avec des rémunérations indécentes. Donc, cette vague de démission était surtout chez les travailleurs de première ligne. Et aussi, il y a ce sentiment d'inégalité, hein, surtout à Amazon, où des profits ont explosé pendant la pandémie. Et puis, cette véritable provocation d'un Jeff Bezos qui s'envole dans l'espace, etc. Donc, tout ça, c'est combiné.
Il nous reste moins d'une minute, Donna Kesselman. Deux questions. Une, Joe Biden a clairement apporté son soutien aux syndicats, au mouvement de syndicalisation. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que ça change le rapport de force et qu'est-ce que sa loi, le PRO Act, pourrait changer, loi qui est adoptée à la Chambre, mais pas au Sénat, je le précise.
Premièrement, c'est un soutien symbolique, mais aussi il a nommé quand même des membres pro-syndicaux au NLRB, c'est-à-dire que, l'agence fédérale qui gère les élections syndicales, le droit syndical, donc ça a été un facteur très important. Et deuxièmement, effectivement, cette nouvelle réforme, si elle devait passer, c'est une réforme de fond hein, qui reviendrait sur beaucoup des mesures restrictives de la loi, par exemple faciliter la procédure d'accréditation, seulement la majorité des signatures suffirait, et deuxièmement, interdire beaucoup de ces pratiques patronales, telles les réunions obligatoires, les mesures répressives envers les syndicalistes, etc.
Mais là, il faudrait que ça passe. L'opposition républicaine, elle est véritablement viscérale, cette opposition chez les Républicains. Merci beaucoup, Donna Kesselman, spécialiste des droits sociaux, pour votre éclairage.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Haïti, oui, mais d'abord le Pérou, Arim Lipold, pour évoquer les nouvelles difficultés en vue du président Castillo.
Oui, selon l'enquête d'une chaîne de télévision, Pedro Castillo aurait plagié une très grande partie de son mémoire de fin d'études. Soupçon pèse également sur son épouse Lilia Paredes, qui a co-rédigé le travail. C'était en vue d'obtenir un master en psychologie éducative, c'est-à-dire dans le journal El Comercio. Pour l'instant, le couple présidentiel n'a pas encore réagi à ces accusations.
Et on en vient donc à Haïti. Arim, un diplomate dominicain, a été enlevé vendredi par l'un des gangs les plus dangereux du pays.
Oui, il s'agit du conseiller agricole de la délégation dominicaine à Port-au-Prince. Il a été enlevé effectivement vendredi à Croix-des-Bouquets, dans la banlieue de la capitale haïtienne, par le gang 400 Mavozo, qui contrôle le quartier. C'était le gang, rappelez-vous, qui en octobre dernier avait séquestré 17 missionnaires américains et leurs familles. Les autorités dominicaines ont exigé du gouvernement haïtien une enquête immédiate pour la libération saine et sauve de Carlos Guillén, écrit le journal Listín Diario. Selon une information du quotidien El Caribe, le gang a demandé une rançon de $500,000 pour la libération du diplomate. Le journal souligne l'augmentation préoccupante des enlèvements en Haïti et l'impuissance des autorités à lutter contre ce fléau. Toujours d'après El Caribe, Haïti a battu l'an dernier le triste record du pays avec le taux d'enlèvement le plus élevé au monde par rapport au nombre de ses habitants.
Arim Lipold, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Serge Massot, et on revient ensemble, Serge, sur les fortes pluies qui ont touché la Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi.
Oui, selon les spécialistes, il est tombé autant de pluie que lors d'un phénomène cyclonique, ce qui a provoqué une subite montée des eaux dans la région de Pointe-à-Pitre. Bilan, un mort, le corps d'un homme retrouvé dans sa voiture, et une personne toujours portée disparue. Depuis ce matin, les secours sont à pied d'œuvre pour tenter de la retrouver. De nombreuses entreprises ont également enregistré d'importants dégâts, comme Zainab Epater. Elle est commerçante, elle a tout perdu. Témoignage.
Tout est perdu, mais bon, comme quoi attendre le passage de la fureur. Ben on essaie de récupérer quand même dans le vélo pour éviter que ça me sente. Et puis on met dans les caddies, c'est pour attendre le passage de l'espère. Mais par contre, tout est foutu. Parce que personne ne voudra acheter un vêtement. C'est juste à jeter, quoi. Un vêtement dans cet état-là, donc c'est vraiment par rapport à l'assureur.
De toute façon, 100%. On venait d'entamer une nouvelle collection. Donc c'est 100% de perte. 100% tout le stock, voilà, tout. En dehors, ce qui était à plus de 1,80 m, là, tout est perdu.
L'eau est montée ben, jusqu'au deuxième niveau, là. Donc, ça, on a l'équivalent de 1,50 m. Vous savez, hier, j'ai pleuré. Parce que ouvrir, et puis surtout quand on aime son outil de travail, on le bichonne. Et quand on ouvre, on voit la désolation. Hier, c'était vraiment... Si vous étiez passé hier, c'est pas la même personne qui vous parle aujourd'hui. On croise les doigts pour que l'état de catastrophe naturelle soit prononcé. Parce que là, ça va être compliqué, d'autant plus que pendant la pandémie, là, on a perdu presque 4 mois d'activité dans la saison. Donc ça, plus ça, c'est une catastrophe.
Des propos recueillis par nos confrères de Guadeloupe, la première. Il n'y avait pas la grande foule pour la manifestation du 1er mai en Martinique, du côté de Fort-de-France, ce dimanche. Parmi les revendications cette année, le refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et le refus de la réforme des retraites à 65 ans. Parmi les manifestants, écoutez Gilbert Pagot du parti GRS pour groupe Révolution Socialiste.
Il s'agit d'une journée qui marque les luttes ouvrières. On a commencé les manifestations du 1er mai en Martinique depuis les années 30, et en particulier la plus grande a été celle de 1936. Ça continue, c'est le moment où les travailleurs, la classe ouvrière s'expriment. Alors bon, nous sommes dans une période de crise. Actuellement, il y a moins de monde qu'avant, mais je veux croire que nous allons surmonter cela.
Des propos recueillis par Pierre-Yves Honoré. Et puis sachez qu'en Guyane, un gardien de prison a été condamné à la prison. 10 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction d'exercer sa profession. Il était en poste à la prison de Rémire-Montjoly. Il a volontairement commis des violences sur un détenu et ce n'était pas la première fois. Bonne journée.
Merci beaucoup, Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista qui est à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver, comme vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast. L'actualité des Amériques à commenter aussi sur Twitter avec @RFIAmérique. Très bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle édition. Le prix.